bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir Daniel Brugès, alors qu'on connaît bien, il a fait énormément de livres sur les vaches, sur les fromages, sur les recettes. Et là, ben, c'est un petit peu différent, il nous propose un livre qui s'appelle « Les mystères du Cantal ». Alors, c'est un cantalou ou un cantalien, je ne sais pas comment on dit, Daniel Brugès, et il nous propose les histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires. On va le retrouver dans quelques instants. Voilà, et bien comme promis, notre invité du jeudi sera Daniel Brugès. Daniel, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors, on a reçu ton dernier livre. Alors, c'est un petit peu différent des autres, hein, parce que on avait l'habitude de tes beaux croquis, de tes belles choses, mais là, t'as changé. Alors toi, t'es cantalien ou cantalou, je sais pas comment on dit. Hein.
Alors, c'est vrai que les gens du cru disent plutôt cantalou, ceux d'ailleurs disent plutôt cantalien, mais les deux termes vont très bien, il n'y a pas de souci.
Ça va. Donc, tu connais très bien ce département du Cantal, et tu produis chez Deboret les mystères du Cantal. Alors, histoire insolite, étrange, criminelle et extraordinaire. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre ?
Alors, il y a eu en fait deux facteurs déclenchants, on pourrait dire. C'est qu'il y a quelques années, j'avais déjà réalisé un ouvrage sur les contes traditionnels d'Auvergne, qui était paru aux éditions Créées à l'époque, et qui, bon, ce livre n'est plus disponible malheureusement maintenant. Et quand je collectais donc ces contes auprès des personnes âgées, surtout, on m'avait aussi raconté des faits un petit peu surprenants, certaines légendes, parce qu'il faut différencier un petit peu le conte de la légende. On m'avait raconté aussi des affaires criminelles non résolues. Et donc, moi, j'avais stocké un petit peu tout ça. Et je me suis dit, tiens, ça ferait bien un livre, d'autant plus que chez Deboret, il y a quelques années aussi, ils avaient lancé une collection mystère qui touchait les différents départements de France. Et voilà en fait comment le livre est né, entre mon collectage à droite à gauche et donc cette collection qui se prêtait totalement, disons, aux écrits et aux paroles que j'avais recueillies.
Alors, il y a eu beaucoup de recherches, je présume. Il y a peut-être des histoires que toi, tu connaissais, mais il a fallu faire quand même pas mal de recherches, non ?
Oui, alors, il y a eu, alors là aussi, recherches sur le terrain, comme je te disais, et également un gros travail au niveau des archives, archives départementales et municipales, puisque sur des vieux documents, j'ai trouvé traces, en particulier pour des affaires criminelles, mais également sur certaines légendes liées à des lieux particuliers. Ça, je l'ai retrouvé davantage sur des archives écrites d'écrivains du 19e, voire du 18e siècle pour certaines histoires. Mais le travail qui m'intéressait aussi, c'était vraiment ce travail sur le terrain. Bon, ça, c'est un travail que j'aime beaucoup faire, donc aller à la rencontre des gens. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé des petites pépites. Et certaines donc de ces histoires sont déjà, bon, ont été recueillies il y a déjà pas mal d'années, hein, 20 ou 30 ans pour certaines. Et ces personnes-là, malheureusement, ne sont plus parmi nous. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'était de véritables bibliothèques vivantes, ces personnes âgées.
Oui, ben c'est ce que je sais plus qui c'est qui disait. Chaque fois que quelqu'un meurt, c'est une encyclopédie qui s'en va.
Ah oui, mais tout à fait. Je partage tout à fait.
Alors oui, c'est vrai que au début de ton livre, t'as marqué. Il y a deux choses. Sans le mystère et l'inconnu, l'âme humaine ne pourrait pas vivre heureuse. Éline Pelin. Et puis en dessous, ce qu'il y a de beau dans un mystère, c'est le secret qu'il contient et non la vérité qu'il cache. Éric Emmanuel Schmitt. Tu t'es inspiré un peu de ça?
Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette part de l'âme humaine qui reste quand même très très mystérieuse. Et je pense que on aurait vraiment du mal à vivre si on n'avait pas un petit peu l'imagination qui vagabonde. Et je crois que souvent, ces légendes ou ces histoires extraordinaires sont nées de l'imagination féconde des gens de notre terre, qu'ils soient d'ailleurs du Cantal, de la Lozère ou de la Haute-Loire, hein, parce que c'est vraiment des histoires typiques à ce milieu rural que j'affectionne particulièrement.
Alors bon, il y a plusieurs chapitres, enfin il y a plusieurs parties, hein. Donc tu commences par des croyances ancrées dans les mémoires.
Ça, oui, alors là, j'ai voulu raconter un petit peu tout ce qui touchait aux bêtes, les bêtes qui ont des pouvoirs étranges. Je pense en particulier à la salamandre, qui longtemps a été réputée pour être un animal nocif, alors qu'il n'y a rien de plus utile qu'une salamandre. Et on croyait, par exemple, qu'elle était capable de tuer un bœuf rien qu'en le regardant. Donc c'est toutes ces croyances que j'ai voulu mettre en avant. J'ai parlé aussi des êtres fabuleux. On a, par exemple, vers Ruine en Margeride, un être très bizarre qu'on appelle qui s'appelle les poulacres. C'est des formes humaines, mais qui n'auraient qu'un seul œil et qui traverseraient la Truyère sur un fil d'or, par exemple. Et j'ai aussi parlé un petit peu de tout ce qui touche les esprits, les revenants, donc en passant par les feux follets et toutes les croyances liées aux esprits, aux revenants, en particulier sur Aurillac, qui a une histoire très très surprenante qui se déroulait au moment de la Toussaint, où tous les corps des disparus réapparaissaient au moment de la Toussaint, revêtus d'un drap blanc, un petit peu comme des fantômes. Et c'est vraiment ça, une légende qui continue à se raconter dans les environs d'Aurillac.
Et puis alors, bien sûr, mais ça, c'était un petit peu l'Auvergne, là. Des eaux pour tout guérir, alors on sait qu'il y a beaucoup de termes en Auvergne et on ne pouvait pas passer à travers, là.
Oui, exactement. Donc je parle bien sûr pour plus particulièrement pour le Cantal, donc tout ce qui peut être eau thermale, et on pense en particulier à la station thermale de Schotzweg avec les eaux les plus chaudes d'Europe à 82 degrés. Mais j'ai aussi voulu parler donc des différentes sources qui, pour la plupart, ont disparu malheureusement, mais qui étaient énormément exploitées au 19e et au début du 20e siècle, donc ces sources d'eau minérale, et qui toutes avaient des vertus plus intéressantes les unes que les autres. Mais j'ai aussi voulu parler des croyances liées aux eaux, parce qu'on a par exemple, ce qui serait super bien partout, des eaux propres à l'intelligence. C'est-à-dire qu'à Ladignac, par exemple, un petit village dans le sud Cantal, on n'hésitait pas à tremper les enfants, les nouveau-nés, dans une fontaine, parce qu'on disait qu'ils seraient beaucoup plus intelligents.
Ouais, d'accord. Puis bien sûr, voilà. Bon, tu parleras des eaux minérales et thermales du Cantal toujours, parce qu'on reste dans le Cantal.
Bien sûr. Hein. Ouais. C'est vraiment un ouvrage. Alors même s'il peut être lu, bien entendu, par des lecteurs de toute la France, c'est aussi une façon de découvrir une autre facette du département. Et on retrouve d'ailleurs certaines croyances ou légendes typiques que l'on retrouve dans d'autres départements, et en particulier quand j'étais venu enquêter pour les dictons sur la Haute-Loire, des histoires de fées ou d'êtres fantastiques, ouais. On en trouve aussi énormément en Haute-Loire.
Hein. Ouais, y a un musée au Monastier sur Gazeille. Hein.
Exactement, ouais. Il y a eu un super travail de fées.
Ouais, donc on avait fait une émission avec lui. Alors oui. Après, bien sûr, le diable. Alors le diable, c'est quelque chose dans les légendes. Donc voilà, tu dis du temps où le diable rôdait.
Oui, alors... Et le diable, alors ce qui est intéressant chez nous, bon, alors il y a parfois un côté mauvais diable, comme dans beaucoup de légendes, mais ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a un diable qui est farceur, qui est plutôt sympa, et qu'on appelle le drac, donc dans le Cantal, ou le rapatou, il y a les deux noms, et là c'est plutôt un diable rigolo, qui va verser de l'eau sur le berger la nuit quand il dort, quand il va attacher deux vaches ensemble à la crèche, voilà, c'est plus le diable farceur que le diable méchant chez nous, contrairement aux fées qui chez nous sont plutôt méchantes, alors que dans d'autres endroits les fées ont toujours un beau rôle. Chez nous c'est plutôt la fée image de la tentation qui attire les garçons, qui les précipite dans des ravins, voilà, qui les fait danser toute la nuit et ils meurent d'épuisement au beau matin, bon, voilà. Donc le diable est plutôt sympa et les fées sont plutôt méchantes, on pourrait résumer comme ça pour le Cantal.
Très bien. Alors après, bien sûr, ça, on est obligé d'y arriver, parce que des histoires de loups et autres bêtes à faire frémir, on a vu le nombre d'ouvrages sur la bête du Gévaudan, et oui, à mon avis, on ne sait toujours pas ce que c'était. Hein.
Non, exactement. Alors justement, sur la bête du Gévaudan, puisqu'elle a concerné une partie du Cantal, toute la partie Margeride, où il y a eu donc des décès, j'ai eu la chance, lorsque j'étais donc instituteur à Clavière, en Margeride, de découvrir... ce qu'on appelle un découvreur, donc au niveau historique, un nouveau décès lié à la bête. Et on avait fait ça, c'était un travail que je menais avec mes élèves au niveau des archives de la mairie. Et on a retrouvé donc la trace d'un décès d'un petit garçon de 8 ans, un petit biscara, et donc qui n'avait jamais été répertorié, c'était resté aux archives de la mairie. Et donc suite à ça, Jean-Richard de Saugue, que les gens connaissent bien, donc avait répertorié dans son travail sur la bête cette histoire. Mais c'est vrai qu'elle a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de sang. temps aussi, et ça reste un mystère, voilà, à travailler encore. Moi, ce que je tiens à dire aussi, c'est que par rapport à ce livre, je ne donne pas de solution. Moi, je raconte simplement. Oui. J'ai plutôt un esprit très rationaliste. Donc, mais ça m'intéresse quand même toujours ce côté mystère, voilà, énigme qui reste à résoudre. Donc, je ne prends jamais position. Je raconte le fait ou la légende, tout simplement.
Alors bon, alors il n'y a pas eu que la bête du Gévaudan. Moi, je voyais la bête des Ternes, la bête du Césalier.
Oui, alors ça, ce sont des bêtes qui sont arrivées un peu plus tardivement. Alors souvent, je pense en référence à la bête du Gévaudan. Pour la bête des Ternes, en fait, on s'est aperçu que c'était simplement un lynx qui s'était échappé. Mais à l'époque, donc, les gens du coin n'avaient jamais vu de lynx. Il y a eu des battues. On a envoyé cette bête qui avait été tuée donc sur Clermont-Ferrand. Et un pharmacien qui analysait à l'époque les animaux surprenants, bizarres, a déterminé que c'était en fait une hyène qui avait dû s'échapper d'un cirque à l'époque.
D'accord.
Et voilà. Et quant à la bête du Césalier, il faudrait plutôt parler des bêtes du Césalier, puisque ça couvrait une très très large zone, quasiment la moitié du département. En fait, c'était plusieurs attaques, et ça s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, et on pense plus que ça a été une rumeur colportée, voilà, pour refaire partir le coût de la viande, etc. Parce qu'il fallait vendre à tout prix les animaux, il fallait que l'économie reparte, et monter de voilà au jour le jour, un petit peu par les journaux locaux qui en rajoutaient, c'est devenu la bête du Césalier, parce qu'on voyait des attaques partout, le moindre berger qui gardait ses vaches voyait passer une bête, et c'est très rigolo d'éplucher la presse de l'époque, donc qui n'est pas si ancienne, après la Seconde Guerre mondiale, et de découvrir tous ces faits divers, et on pourrait rajouter à ça quelques passages sûrement de loups proches des troupeaux, mais en fait, il n'y a jamais eu, par exemple, de décès lié à la bête du Césalier. Quelques troupeaux attaqués, mais c'est tout. Donc, voilà, on peut supposer qu'il s'agissait plus d'une rumeur qu'une véritable bête.
Ouais, d'ailleurs, tu parles le loup des monts du Cantal. Il y a eu des loups dans le Cantal, oui, bien sûr.
Oui. Alors, moi, j'ai voulu faire le lien avec ce qu'on entend actuellement, voilà, les loups qui sont de plus en plus proches, et l'ONF, qui a un secteur chargé vraiment des recherches sur le loup, a bien indiqué que, voilà, on peut dire actuellement qu'il y a des loups sur les monts du Cantal. Très peu, mais il y en a. D'ailleurs, il y en a un qui a été écrasé il y a quelques années, juste à côté de la station de ski du Luron. Donc là, on a vraiment déterminé que c'était vraiment un loup. Donc voilà. Toujours ces fameux loups des Abruzzes, quoi, qui seraient remontés, ouais. Voilà.
Alors bon, j'ai vu une émission l'autre fois sur les loups, quelqu'un qui les suit. C'est vrai que c'est des animaux qui font énormément de kilomètres, hein, qui peuvent faire des centaines de kilomètres pour changer de lieu. Alors pourquoi pas arriver chez nous, hein, de toute façon.
Oui, oui, bah,
enfin,
bien sûr.
Je crois qu'il faut pas non plus, parce que le gars, il avait étudié les loups, c'est pas non plus tout ce qu'on dit, hein. Il y a beaucoup de légendes sur le loup. Hein,
mais complètement, c'est pour ça que moi je tenais à mettre ça. Moi je crois qu'il faut aussi réhabiliter, même si dans les endroits où il y en a, ça pose certainement des soucis aussi avec les éleveurs, hein, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'il est porteur de lourds fardeaux, et certainement beaucoup plus que ce qu'il a pu commettre, entre autres comme méfait, hein. Ça j'en suis persuadé, bien sûr.
Ah ben, on a le comment ça s'appelle, à Yellowstone aux États-Unis, c'est le plus grand parc.
Oui.
Ils avaient éradiqué les loups.
Oui.
Et ils ont été obligés de les réintroduire parce qu'ils se sont rendus compte que les herbivores, il y en avait tellement, il y avait plus de prédateurs et les prairies se régénéraient plus, ils mangeaient trop et donc voilà.
Oui,
donc ils les ont remis et du coup tout est rentré dans l'ordre.
Bien sûr, on retrouve un équilibre naturel, environnemental. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, nous, si certains sont vraiment revenus aussi sur les monts du Cantal, il y a vraiment une grosse prolifération de mouflons et de chamois. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis de l'attirer. Et il régule automatiquement aussi un peu les populations envahissantes, hein, c'est sûr. Hein.
Alors, on change complètement, là, puisqu'on va des mystères puisés dans la religion. Alors, on sait que la religion, ils nous en ont raconté, hein.
Oui,
donc là, des apparitions. Alors, tu nous parles d'apparitions, de reliques.
Oui, on a plusieurs apparitions de la Vierge, entre autres. Donc, des lieux qui, après, ont permis la construction de chapelles, d'églises, puisque il y a eu pas mal d'apparitions au fil des siècles sur le Cantal. Et donc, aussi, j'ai voulu mettre les lieux réputés pour des guérisons, puisqu'on a certains lieux où on va invoquer la Vierge ou d'autres saints pour se soigner de certaines maladies. Il y a des pèlerinages comme à la Fontsainte, qui est un pèlerinage bien au milieu des montagnes, puisque la source où la Vierge aurait fait son apparition est réputée guérisseuse aussi. Voilà, donc je parle aussi de ça. Ainsi que de certaines reliques qui ont des pouvoirs. J'ai parlé par exemple de la relique de Sainte Attilie, qui est une sainte dont les reliques auraient été ramenées d'Italie, voilà, et qui possède de nombreux pouvoirs. Et j'ai fait un dernier chapitre là, dans ce qui est sur la religion, au sujet des roues à clochettes, qui sont assez mystérieuses. Il y en a 5 dans le Cantal. C'est comme une grande roue de charrette, et sur laquelle sont fixées des cloches. Et cette roue, on la faisait tourner. Et là aussi, il y a plusieurs explications, mais rien n'est vraiment définitif. Alors, on ne sait pas trop si elle servait pour les mariages, si c'était pour introduire la messe, si c'était pour guérir, là aussi. Et on retrouve certaines de ces roues en Bretagne, bizarrement. Mais il y en a très très peu en France, en fait. C'est un élément religieux peu connu. Je ne sais même pas d'ailleurs si en Haute-Loire, il y en a. Peut-être si, mais je ne sais
ça,
pas.
Je ne peux pas te dire.
Oui, oui, mais là, honnêtement, bon, moi j'ai découvert ça vraiment en faisant ces recherches. Je n'en avais jamais entendu parler. Et ce sont des roues qui sont suspendues sur le mur de l'église, donc avec à l'intérieur, avec une corde, on tire et ça fait tourner la roue, ça fait un son. Mais alors l'utilité, l'utilisation, voilà, toujours un petit peu un point d'interrogation.
Alors aujourd'hui, dans notre invité du jeudi, c'est notre ami Daniel Brugès, les mystères du Cantal. Alors, Daniel, on va rester en ligne, mais on va faire un petit break musical et j'ai trouvé une cantalienne ou cantalouse,
oui,
très très célèbre, puisque c'est Sylvie Pulès.
Ah oui, je pense que très, très bien.
Tu la connais, voilà.
Oui.
Et qui nous interprète tout simplement, eh bien, mon Cantal. On se retrouve tout de suite après.
Depuis le premier jour. J'aime bien mon Cantal, ce pays sans égal. C'est là que j'ai grandi avec tous mes amis. J'aime bien mon Cantal, ces montagnes idéales où coulent mille ruisseaux venus des hauts plateaux. J'aime bien mon Cantal quand c'est sentimental. D'Aurillac à Saint-Flour, on s'en va faire un tour. Une foule danse pour la transhumance. De l'Aubrac à l'Artense, quand revient le printemps, le long des eaux vives, en montant à l'estive, les troupeaux s'enivrent des senteurs du printemps. J'aime bien mon Cantal, c'est mon pays natal. Depuis le premier jour, j'y reviens toujours. J'aime bien mon Cantal, ce pays sans égal. C'est là que j'ai grandi avec tous mes amis. J'aime bien mon Cantal, son âme musicale. Par les soirs de fête, j'écoute la cabrette. J'aime bien mon Cantal, sous ton ciel sans égal. Je voudrais sans détour y finir mes vieux jours. C'est mon pays natal, il y a la truffade et toutes les grillades que l'on mange entre amis avec la charcuterie. Et c'est à Salers que l'on prend le dessert. J'aime aussi la planèse, on s'y sent à l'aise quand on voit les deux tours des clochers de Saint-Flour. Et c'est à Pierrefort, mon pays, mon trésor, que je veux retourner pour mieux m'y requinquer. Mauriac est en fête, la ville s'apprête, toujours indiscrète, à chanter le présent. Le puits Marie chante, la truyère enchante, et elle alimente le barrage de Savance. j'aime bien mon Cantal, ses cités féodales, en Jauny et à Leuze, Murat la lutteuse, j'aime aussi Garabi, où grâce à son génie, Monsieur Eiffel enfin a fait passer le train. J'aime bien Chaudes-Aigues, au fond de sa vallée, où au creux de l'hiver, il fait bon se réchauffer. Et puis quand le moment vient de l'abattement, vers toi c'est capital, je viens dans mon Cantal.
Voilà, Sylvie Pulès. Eh ben, ça tombe bien puisqu'on était avec, on est toujours avec Daniel Brugès, les mystères du Cantal. Ouais, Daniel et Sylvie Pulès, qui a toujours un gros succès d'ailleurs, je pense.
Oui, tout à fait.
Et qui, et je crois même, je crois pas dire de bêtises, parce que j'avais reçu une fois, elle m'avait envoyé. Et je crois même qu'elle est passée à l'Olympia, elle. Je crois bien.
Ah, oui, oui. Ouais, c'est ça. Elle est passée 4 ou 5 fois à l'Olympia et. Ouais. Et encore, ben, l'an passé, je crois que ça a été... Enfin, je voudrais pas dire de bêtises non plus. Je ne sais plus si ça a eu lieu ou pas. Mais en tous les cas, à chaque fois, elle a un succès énorme. Elle remplit la salle. Et au niveau des accordéonistes, oui, c'est une grande accordéoniste auvergnate. Voilà, au niveau du Musette. Et qui évolue vraiment... dans les vraiment ces accordéonistes de talent.
Ouais, ben mon Cantal, hein, c'est bien ça, en fait, ce qu'elle a chanté.
Oui, oui, c'est sympa. C'est bon, en plus une valse qui entraîne bien. Voilà, elle fait beaucoup de ballets, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Enfin, pour le moment, c'est un peu coincé, mais bon.
Et oui, tout à l'heure. Oui, exactement.
Alors, on continue dans ton livre, hein, Les Mystères du Cantal chez Deboré. Donc là, on parle. Il y a des affaires criminelles. Alors, il y en a eu pas mal. Alors, celle qui m'a, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais celle qui m'a surpris, c'est la mort pour 45 francs. C'est quand même pas beaucoup.
Oui, tout à fait. Alors moi, ce que je tenais à faire, puisqu'il y a déjà eu aussi beaucoup d'ouvrages sur les affaires criminelles, que ce soit dans le département du Cantal ou ailleurs, j'ai mis donc 4 histoires qui, pour moi, étaient bien emblématiques, puisque on a accusé certaines personnes, mais on n'est pas sûr, voilà, que ce soit elle qui ait commis les méfaits. Donc voilà, ce côté toujours mystérieux qui restait un petit peu à élucider, parce que là, souvent la justice était plutôt expéditive. Les enquêtes ont été un petit peu bâclées, puisque là, j'ai travaillé à partir des documents des archives départementales, des comptes rendus de ces affaires, et on s'aperçoit qu'il y avait des fois très peu de preuves. Donc voilà, j'ai retenu ces 4 qui sont répartis un petit peu sur les différents points du département. Voilà, c'était juste pour avoir un petit éclairage, mais c'est vrai que c'est pas l'essentiel du livre. Voilà, hein, c'est plus
Parties.
C'est un des chapitres, voilà, tout simplement, parce que ce sont des histoires un peu singulières, comme tu dis. Mourir pour 45 francs, c'est vrai que ça faisait peu. Oui. Ou la dernière, quand la paresse pousse au crime.
Ah, moi aussi,
voilà, j'ai bien aimé le jugement quand le magistrat dit, voyez ce que ça donne d'être paresseux. Ça vous emmène au crime. Bon, je pense qu'il y a d'autres raisons aussi.
Oui.
Ce n'est pas la seule, mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit chapitre avec quelques petits clins d'œil en plus. Là.
Alors après, là, t'as un long chapitre, là. C'est les histoires singulières et surprenantes. Alors là, il y en a pas mal quand même.
Oui, alors là, celui-là m'a particulièrement intéressé. Et, entre autres, bon, je ne vais pas parler de toutes, mais un personnage qui m'a fortement inspiré, c'est un moine qui vivait donc au XIVe siècle, qui s'appelait Roque Taillade, et qui a eu, en fait, c'était le Nostradamus, on va dire, du Cantal, puisqu'il a eu des tas de visions qu'il a mis par écrit. Il a été enfermé plusieurs fois parce qu'il posait vraiment des problèmes, même au pape qui était à Avignon. On l'a enfermé parce qu'il prédisait vraiment les pires choses. Et chose surprenante, plusieurs de ses prophéties se sont réalisées par la suite. Il avait par exemple dit que les Français seraient attaqués par les Anglais à telle date. Il avait donné les dates et effectivement, l'histoire a prouvé que ça s'est passé. Alors voilà, c'est vrai que c'est un personnage sombre, mais bon, intéressant à étudier quand on voit les différents écrits qu'il y a eu. Le seul souci que j'ai eu, c'est que moi, je n'ai pas pu lire les documents là originaux, puisque il écrivait en latin.
Ah oui.
Et j'ai travaillé à partir d'écrits d'autres auteurs, voilà, on va dire. Hein. Mais c'est vrai que c'était intéressant. Et un autre personnage qui m'a fortement intéressé pour ce chapitre, c'est Arsène Lacarrière-Latour, qui était un noble donc du Cantal, et qui est parti, qui avait fait des études d'architecte, etc., qui, bon, ne gagnait pas très bien sa vie d'abord dans le Cantal, après il est parti sur Paris, mais là aussi c'était la misère noire. Et il était passionné par Lafayette, quelqu'un que vous connaissez bien en Haute-Loire, et il est parti donc vers ce qu'on pourrait appeler maintenant les États-Unis, en tous les cas en Louisiane. Il a fait d'abord étape à Saint-Domingue, et après il est parti à Baton Rouge en Louisiane, et c'est lui qui a créé en fait la ville de Baton Rouge, carrément, cet architecte, et l'architecture qu'on voit encore aujourd'hui sur Baton Rouge, donc est liée à ce Lacarrière-Latour. Et ce qui est très très surprenant, c'est que quand on va encore aujourd'hui sur Baton Rouge, il y a énormément de noms aux consonances cantaliennes. Alors ça, c'est très très rigolo. Bien sûr, il y a des Lacarrière, il y a des Latour, mais il y a des Rénal, il y a des tas de noms vraiment cantaliens qu'on retrouve là-bas à Baton Rouge encore de nos jours, puisque ce sont des descendants de ces différentes familles qu'il a fait venir, qu'il était là-bas. Et bon. Après, il est revenu, lui, dans le Cantal, et bon, il est revenu mourir dans le Cantal, là aussi, quasiment dans la misère, quoi. C'est un de ces personnages qui, en fait, a eu une vie... époustouflante et qui a laissé peu de traces même dans l'histoire du département, quoi, en fait.
Comme quoi on apprend des choses dans ton livre.
Hein. Ben oui, j'espère un petit peu, oui.
Alors, il y a quelque chose que bon, j'ai remarqué, parce que je trouve que c'est marrant, c'est le Cantal et ses 300 puceaux. Alors,
oui.
Ça, 302 alors, puceaux.
Oui, ouais, voilà. Alors ça, c'était par rapport au sénateur de l'époque, François Marsal, il y avait quelques attaques virulentes, effectivement. On dit qu'aujourd'hui, des fois, il ne se ménage pas au niveau des hommes politiques, mais à l'époque, c'était pire, et en plus, c'était retranscrit dans la presse locale, quoi. On n'hésitait pas à dire... voilà ce qui avait été dit, et là au niveau du Sénat, c'était carrément sorti, voilà, que le Cantal et ses 302 puceaux, puisque les gens n'avaient pas suivi le vote que lui aurait aimé, quoi, donc...
D'accord.
Ah ouais, ça tapait dur.
Oui, ça tapait fort. Alors toujours dans ta dernière partie, en fait, des faits divers et insolites, là aussi il a fallu trier un petit peu, je pense, hein.
Oui, alors là, c'est, on va dire, le côté plus léger du livre. Donc, je vais, par exemple, parler de la construction du cimetière de Neuve-Église, justement, mon village, parce que ça a été épique. C'était à l'époque où tous les cimetières se trouvaient autour des églises. Et après, pour des raisons sanitaires, souvent, on les a déplacés un petit peu à l'extérieur. Et là, quand ça s'est très, très mal passé, puisque le maire de l'époque, en plus, était... on va dire anti-religieux au maximum. Alors il a fait traîner. Surtout, le curé voulait que la croix du cimetière soit bénie. Le maire, hors de question. Alors ça a duré. Il y a eu des, là aussi, par presse interposée, des échanges plus que virulents. Le curé qui, lors du prêche, attaquait la mairie. Et donc, c'est bon, voilà, c'est ce côté insolite et fait divers qui m'a intéressé. Et bon, finalement, le cimetière s'est bien fait à l'endroit où il se trouve actuellement. On n'a pas écouté le curé de l'époque, et même le jour de l'inauguration donc officielle du cimetière, l'évêque a quand même été invité, et comble de malheur, il s'est mis à pleuvoir à torrent, et là le curé est reparti de plus belle, qui avait même pas un abri prévu pour l'évêque, enfin bon. Et ça tient des pages et des pages, quoi. C'est plutôt rigolo. Et autre fait insolite, par exemple, j'ai parlé de la conscrite de Saint-Jacques-des-Blats. Saint-Jacques-des-Blats, c'est un petit village pas très loin, justement, j'en parlais tout à l'heure, de la station du Luron. Et suite à une erreur d'inscription sur les registres d'état civil, il y a une jeune fille qui a été convoquée comme conscrite. Sur le registre d'état civil, elle avait comme nom Jean, alors que c'était Jeanne, mais voilà. Et on l'a quand même convoquée à Aurillac pour être conscrite. Alors bon, ça a bien fait la farce quand tous ces jeunes conscrits ont vu débarquer la belle demoiselle de Saint-Jacques. Et ils auraient bien aimé la garder avec eux, mais voilà, c'était une jeune femme et donc pas conscrite.
Alors je peux te dire qu'on a eu la même histoire en Haute-Loire, et
ah
en
oui
plus, moi, c'est dans une famille des amis. Alors
oui,
ça remonte aux années 1900, hein, parce que ça doit être la grand-mère d'une amie qui a plus de 80 ans.
Oui.
Et elle, alors c'était la Haute-Loire, tu sais, sur Saint-Front, là, l'Olmazet-Saint-Ouen.
Oui.
Ouais. L'hiver, il y avait un peu de neige, donc souvent on disait, ça naissait dans les fermes, hein. On
et
disait
oui
aux facteurs, tiens, on a eu un gamin. Alors on sait qu'à l'époque, les facteurs, ils suçaient pas trop la glace, hein, donc.
Bien sûr.
Et en arrivant, eh bien, donc il a dû pas donner le bon prénom, et elle a 18 ans. elle reçoit comme quoi, eh ben, il faut qu'elle se présente au, je sais plus comment ça s'appelle, là. Enfin, pour faire les...
Le recensement militaire.
Ouais, recensement militaire. Et donc, elle y a été, quand, pareil, là, il s'était trompé dans le prénom, et elle était, c'était une jeune fille. Voilà. Donc,
mais voilà. Comme voilà, quoi. C'est le même cas.
Toi, ça arrive, oui. C'est bien le cas.
Eh oui, oui, tout à fait. Hein,
et puis, j'ai vu que t'as mis, aussi, tu parles de Napoléon, car Napoléon affectionnait le Cantal.
Oui. Alors là, l'histoire, voilà, quand on parle de faits divers ou insolites, en fait, parmi les chevaux que montait Napoléon, il y en avait un qui s'appelait Cantal et qui était originaire d'un élevage du Cantal. Près de Mauriac, il y avait un élevage de chevaux de la race dite Auvergne, ces petits chevaux trapus, très résistants, et c'était un des chevaux qu'affectionnait particulièrement Napoléon pour sa résistance, et c'est un cheval qui a participé à de nombreuses batailles. Et voilà, qui est resté un peu pour la postérité, puisqu'on peut voir son le portrait de ce cheval a été fait entre autres par le peintre Géricault, qui est bien connu, et on le trouve, alors je sais plus, je me souviens plus si c'est au Louvre ou à Saint-Germain-en-Laye. En tous les cas, ce cheval est représenté sur un magnifique tableau. C'était un cheval blanc crème un petit peu, et donc que Napoléon avait appelé Cantal, puisqu'il venait tout simplement du Cantal. Voilà, donc comme on dit souvent chez nous, Cantal correspond vraiment à plusieurs noms, puisque c'est le département, c'est le fromage, mais c'est aussi le cheval de Napoléon.
Eh ben oui, voilà. Donc, Daniel Bruget, c'est avec nous aujourd'hui les mystères du Cantal, hein, donc histoire insolite, étrange, criminelle, extraordinaire, chez De Boré. Ben finalement, tu vas nous apprendre plein de choses, hein. C'est un petit peu différent des autres fois, mais je pense que c'est assez sympa parce que on va découvrir de belles choses, hein, de belles légendes aussi, mais c'est ce qui fait un peu la vie, hein. Les légendes, c'est toujours assez sympa, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est aussi peut-être, en plus en ces périodes un petit peu compliquées, une manière de s'évader un petit peu différente. Mais voilà, je veux aussi rassurer les lecteurs et tous les amis qui connaissent mon travail de peinture et d'aquarelle. Les prochains titres, ce sera à nouveau avec des aquarelles aussi.
D'accord, t'en as un sous le coude là ?
Alors, il y a plusieurs choses qui vont paraître prochainement, en particulier des petits carnets. Il y en avait déjà eu deux l'an dernier qui peuvent servir aussi de carnet de notes, donc des petits textes et des aquarelles. Il y en a un sur les oiseaux, un sur les plantes bienfaisantes, un sur l'Auvergne et un sur les recettes. En fait, ce sont souvent des extraits de précédents livres qu'on a pu faire avec Christiane, mon épouse. Et surtout, en nouveauté, à l'automne, il y aura un nouveau livre de recettes sur les plats mijotés. Il va s'appeler, alors si je me souviens bien, parce que le titre n'est pas calé, mais Petit plat mijoté, voilà.
D'accord. Bon, bah, écoute, Daniel, merci d'avoir été avec nous.
Ben, un très grand merci à toi, Jean-Pierre, et à Radio Craponne. Moi, c'est toujours avec plaisir que j'échange voilà, avec les auditeurs, et merci beaucoup une fois encore.
Puis, comme on le dit traditionnellement, bien sûr, ton livre, on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Exactement. Merci bien.
Et on va se quitter. Bon, on va se quitter avec. Ben, j'ai trouvé l'hymne au Cantal. Alors, tu te rends compte ?
Ah.
Donc, on va se quitter avec l'hymne au Cantal. Et puis, ben, à tes prochains ouvrages.
Merci. Oui, avec plaisir.
Salut, Daniel. Merci. Au revoir.
Au revoir, Jean-Pierre.
Merci d'avoir été avec nous. Voilà, Daniel Bruges était avec nous aujourd'hui et pour parler de son dernier livre.
Mon
et on écoute l'hymne au Cantal.
Ce fier Quentin qui m'a donné le jour, mon cœur battra pour toi, noble patrie. Il t'offrira l'hymne de son amour.
Partout orné de tapis de verdure, d'aspect divers, le pays est formé. Ravin profond, bois somptueux, source pure, viennent s'offrir à nos regards charmés.
Est-il ailleurs d'aussi fraîches campagnes et de bosquets aussi délicieux? Est-il surtout de plus vertes montagnes dont les sommets s'élèvent jusqu'aux cieux?
De vergenées couronnent nos vallées. Dans le Cantal, il n'est point de désert. Le jour, la nuit, ces montagnes foulées laissent errer des troupeaux de salaire.
C'est l'expansion économique.
Vous connaissez les lotissements des Gourdiflettes?
Oh, on a encore plein les oreilles.
Eh bien, pour faire suite à ces lotissements, on va créer ici, chez vous, un parc de loisirs.
Faut que vous se trompe. Je suis mis de la peur, là. Faut que vous se trompe.
Aujourd'hui, c'est le moment d'acheter, disent les agents immobiliers. Ils nous sortent ce grand slogan, évidemment, comme tous les ans. Il faut croire que c'est vraiment le pied de devenir propriétaire. Même si en fait, t'es locataire pour plus de 30 ans de ton banquier. Un appart de 20 mètres carrés en plein cœur de Paris. Au même tarif, on peut se payer une grande bâtisse au Puy-Marie. Comme des poulets de batterie, vivre dans une méga-cité, moi ça me fait vraiment pas envie. La gueule masquée comme à Pékin, pour respirer je te remercie. Moi je recherche le doux parfum de l'atmosphère du Puy-Marie.
C'était Oiseau, le Puy-Marie, pour terminer cette émission avec Daniel Brugès, les mystères du Cantal. histoire insolite, étrange, criminelle et extraordinaire chez Deboré. Eh bien, cette émission, vous pouvez la réentendre le lundi à 22h, le mardi à 12h30 et le mercredi à... Non, c'est l'inverse. Le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend tout quand est-ce que vous écoutez cette émission.